de poursuivre quelque part dans cette exploration des conventions, du respect ou du non-respect des conventions, grâce à Lindsay Cameron, qui, après un doctorat en droit international à l'Université de Genève, a également travaillé pour le Haut Commissariat pour les réfugiés dans les Balkans et pour la Cour d'appel de l'Ontario au Canada. Et elle est actuellement conseillère juridique dans la division juridique du CICR. Donc je trouve particulièrement intéressant d'avoir un regard historique de quelqu'un confronté à la pratique du droit international au sein du CICR. Et vous allez nous parler donc du CICR face aux violations de la Convention de Genève de 1906.
Merci beaucoup. Merci beaucoup de m'avoir invitée. Je suis très honorée d'être ici aussi parmi toute cette connaissance encyclopédique historique. Je l'avoue, je ne l'ai pas. Mais je suis très honorée d'être parmi vous. Aussi parce que le 8 juin, c'est l'anniversaire des protocoles additionnels de 1977. Donc c'est une grande journée. On a entendu des discours passionnants sur des personnalités et passionnantes, et j'ai la tâche de vous parler d'un sujet un petit peu plus sec, qui est le droit, et la mise en œuvre du droit par le CICR. Donc c'est pas toujours évident. Lorsqu'on parle de la Première Guerre mondiale, on pense souvent au champ de bataille. Le grand public, on pense au champ de bataille, on pense au nombre presque incompréhensible de morts et de blessés. Et c'était une guerre dans laquelle on anticipait des milliers de morts et de blessés juste pour le premier jour d'une grande bataille. C'est inimaginable aujourd'hui. On ne peut pas planifier des batailles où on pense qu'il y aurait 10 milliers de morts ou de blessés aujourd'hui. Donc c'est vraiment une autre époque. Et on pense justement aux blessés et malades, qui est la catégorie de personnes pour qui la toute première convention de Genève en 1864 avait été créée. Et la Première Guerre mondiale a éclaté à la veille de la 50e anniversaire de l'adoption de cette convention, et seulement quelques années après à sa révision en 1906. Et si on veut parler du CICR face aux violations de cette convention, bah, cela présume qu'il y en a eu des violations. Et souvent, je pense aujourd'hui, on a l'impression que si on parle de notre époque, que tout le monde respectait le droit et puis que tout le monde était sympa, même pendant la guerre. Et puis on sait qu'en fait, ce n'est pas le cas. Et puis il faut revoir un peu cette optique que le droit était mieux respecté auparavant. Donc mon argument ici est le suivant. C'est que le CICR, en travaillant sans cesse et sans relâche pour la mise en œuvre des conventions de 1906, de 1907 et aussi la convention pour la guerre maritime, mais aussi le règlement de la haie, a démontré une confiance et une ferme conviction dans la capacité du droit de limiter les effets néfastes du conflit. Et ça, même dans une situation de la guerre industrialisée, et à une époque où le droit international lui-même était vraiment remis en question. Juste l'éclatement de la guerre en soi a posé de grandes questions pour des juristes de l'époque. Donc la convention de 1906 contenait 33 articles et ressemblait aux conventions de Genève de 1929 et puis ensuite de 1949. Donc il nous est familier, il stipulait que les militaires qui seront blessés ou malades devront être respectés et soignés sans distinction de nationalité par le belligérant qui les aura en son pouvoir. Il obligeait l'occupant du champ de bataille de rechercher les blessés et les malades et les morts, de les faire protéger après chaque combat, d'examiner, d'identifier les morts et de annoncer aux autorités pour qu'il n'y ait pas de personnes qui sont disparues. Et aussi la même chose pour les blessés et les malades. Et les formations sanitaires, donc le personnel médical aujourd'hui, devaient être respectés et protégés tant qu'ils ne sont pas utilisés pour commettre des actes nuisibles à l'ennemi. Maintenant, qu'est-ce que c'est un acte nuisible à l'ennemi? Ça, c'est une grande question. À l'époque, ce n'était pas le cas. C'était d'autres questions qui étaient vraiment des questions juridiques de débats juridiques de l'époque. Et puis, la convention contenait des dispositions sur le retour du personnel médical qui aurait tombé entre les mains du pouvoir ennemi. Donc, qui aurait été capturé avec les autres soldats comme prisonniers de guerre, et on prenait aussi le personnel médical. Et l'interprétation et l'application de ces dispositions-là étaient très controversées pendant le conflit. Donc le CICR n'avait pas de rôle formel octroyé par la Convention de 1906 pour superviser sa mise en œuvre, même si ça tombait directement dans le mandat du CICR. Donc on a beaucoup parlé de prisonniers de guerre et d'autres choses qui étaient un peu en dehors, et puis surtout les civils qui étaient en dehors, tandis que les blessés et les malades, là c'est vraiment le pain du CICR. Mais il semble que les États partis au conflit et aussi les sociétés nationales, surtout, s'attendaient à ce que le CICR exerce ce rôle-là de supervision de la mise en œuvre de la Convention. Mais la Convention de 1906, comme je vous ai dit, c'est une convention qui règle en fait le respect des blessés et des malades, un peu ce qui se passe, et les formations sanitaires, donc le personnel médical sur les lignes de front, les attaques ou la protection des hôpitaux. Le CICR n'était pas en mesure de vraiment superviser sur les lignes de front la mise en œuvre de cette convention-là au sens strict. On n'était pas sur les lignes de front. On a visité des camps de prisonniers de guerre, on n'était pas sur les lignes de front. Mais donc voilà, cet aspect-là, c'était difficile. Mais le CICR a quand même supervisé la mise en œuvre de la façon suivante. Tout d'abord, il a rappelé à tous les États partis au conflit leurs obligations sous la Convention, et ça, c'est pas anodin, et je vais vous expliquer pourquoi. Deuxièmement, il a transmis et il a publié des allégations de violation de la Convention qu'il a reçues de la part des sociétés nationales dans la revue, dans le bulletin, à l'époque c'était le bulletin, et il a publié aussi dans le bulletin international des interprétations de certains articles des conventions et surtout ceux qui le préoccupaient beaucoup, notamment le retour de ce personnel médical. Donc, de cette première chose, ce rappel de droit, de rappeler aux États leur obligation de respecter le droit. Pourquoi est-ce que ça, c'est important? C'est parce que si on veut que le droit soit efficace, les États, ils doivent savoir que ça s'applique et donner l'ordre d'agir en conformité. Et c'est aussi la base de discussion du CICR avec un État. Voilà, le droit il s'applique, maintenant on discute comment on le met en œuvre. Depuis le début de la guerre, en août 1914, le CICR avait reçu des plaintes de violation de la Convention 1906, et la Croix-Rouge autrichienne avait cité une attaque contre un hôpital pour dire « Mais est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, dire aux États de respecter ces conventions? Ça ne va pas !» Donc, le 21 septembre 1914, le CICR a émis ce qu'on peut considérer comme son premier rappel du droit, directement au gouvernement, directement aux États. Il a envoyé un circulaire aux États leur demandant très respectueusement de les rappeler aux besoins de voir que la Convention de Genève est rigoureusement appliquée de bonne foi. Et ils disent des accusations qui ont été émises des deux côtés et qu'on a vu dans la presse nous indiquent que ce n'est pas respecté suffisamment. Et on sait que ça doit être difficile de le faire parce qu'on sait que l'étendue des champs de bataille ne rend pas facile. Mais si vous donnez bien de bons ordres et puis si vous respectez autre chose, ça devrait être possible. Et puis, ensuite, il dit, mais notre intervention est fondée uniquement sur notre autorité morale. Donc, il souligne qu'ils n'ont pas, une autorité légale de superviser la mise en œuvre de la Convention. Et ça, c'est très important, mais qu'on est conscient de notre devoir humanitaire qui nous a été conféré tout le reste de la Convention. Donc ça, c'était une nouvelle démarche à l'époque. Les CICR avaient l'habitude d'envoyer un circulaire à toutes les sociétés nationales au début d'un conflit armé pour rappeler aux sociétés nationales « Ah, il y a un conflit, est-ce que vous pouvez aller en aide, au secours, faire toutes les autres choses ?» Mais ils n'avaient jamais contacté, de tout ce que j'ai vu dans toute la recherche que j'avais faite, ils n'avaient jamais contacté directement les États. Mais c'est important parce que c'était un précédent très important, c'est quelque chose que le CICR fait, je dirais pas systématiquement maintenant, mais fait très régulièrement maintenant comme base de, justement, de discours avec les États pour discuter quel est le droit qui s'applique dans cette situation, comment est-ce qu'on va dialoguer. Mais en fait, l'autre chose qui est bizarre presque avec ça, c'est que en droit, donc de jure, la convention de 1906 n'a jamais été applicable. Et ça, c'est parce qu'il y avait une clause dans la convention de 1906 qui était une clause qu'on appelle « si omnes ». Et c'était l'article 24 qui dit « la disposition de la présente convention ne sont pas obligatoires, ne sont obligatoires que pour les puissances contractantes en cas de guerre entre deux ou plusieurs d'entre elles. Ces dispositions cesseront d'être obligatoires du moment où l'une des puissances belligérantes ne serait pas signataire de la convention. » Et la Monténégro, qui était partie au conflit dès le début, n'a pas été partie de la convention de 1906, en fait. Voilà. Donc, et puis, en fait, les règlements de la haie, au fur et à mesure que d'autres États se sont joints au conflit, à partir de 1917, les règlements de la haie n'étaient pas non plus juridiquement applicables à la convention, à la guerre. Paul Desgouttes, qu'on avait évoqué son nom avant, c'était le secrétaire général du CICR, et puis c'était le grand juriste, un des grands juristes, mais un de mes préférés, parce qu'il a écrit le commentaire sur la convention de 1922. Il avait publié une analyse de la situation juridique de la guerre en 1919, en disant, oui, en fait, on s'est rendu compte que ça ne s'appliquait pas. Et il a dit ça très clairement, mais il a dit, mais le fait que ça ne s'appliquait pas juridiquement, des jurés, ça n'a jamais été invoqué par les parties au conflit pour justifier leur violation, leur désaccord avec le droit qui devait s'appliquer. Ce qui est presque vrai, mais pas entièrement. Et là où c'était pas entièrement vrai, que c'est à la toute fin du conflit, le docteur Frédéric Ferrière, dont on a parlé tout à l'heure, qui était aussi responsable de personnel médical, de retour de personnel médical, avait vu qu'il y avait une douzaine de personnel médical américain qui avaient été capturés par les Allemands. Il a envoyé une lettre à la Société nationale américaine disant « Est-ce que vous voulez qu'on intervienne avec les autorités allemandes ?» La Société nationale a dit « Oui, s'il vous plaît !» Il a fait, et la réponse des Allemands a dit « Les Américains pensent que ce n'est pas applicable, cette convention, donc non. » Et le CICR a tombé des nues, parce que c'est pas possible. Ils sont allés à Berne, ils sont allés parler avec le conseiller juridique à Berne, ils sont allés parler avec l'ambassade américaine à Berne pour dire « Avec tout ce qui fait la Société nationale américaine, de la Croix-Rouge nationale américaine pendant ce conflit, vous ne pouvez pas dire que cette convention ne s'applique pas. Qu'est-ce que vous dites ?» Ils ont dit « Non, 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 ça ne s'applique pas. Ça reste notre interprétation. » Mais ça s'est arrivé, la confirmation de cette interprétation, c'était en décembre 1918. Donc c'était vraiment à la toute fin, c'est une question qui s'est posée à la toute fin, et dans tout le reste de tout ce que j'ai regardé, c'est vrai que personne n'a dit « ça ne nous concerne pas parce que ça ne s'applique pas ». L'autre chose qui est intéressante, c'est qu'en fait, le CICR, il a un peu raté une occasion, parce que si la convention de 1906 ne s'appliquait pas, c'était la convention de 1864, qui voulait dire qu'il fallait tout de suite renvoyer le personnel médical. Donc il aurait pu dire, oui, mais en fait, alors renvoyez-les tout de suite, vous n'avez aucune raison de les détenir. Mais ils n'ont pas fait ça. Je pense qu'ils étaient trop choqués. voilà. Donc, pour dire, le rappel du droit, c'est quelque chose qui n'est pas anodin pour le CICR et dans ce conflit. C'est ça, c'est quelque chose qu'ils ont fait pour la mise en œuvre. La deuxième chose qu'ils avaient fait, c'était la publication et la transmission de plaintes par le bulletin. Donc, ceux qui connaissent bien la façon dont le CICR travaille maintenant avec la politique de confidentialité seraient peut-être un peu surpris par le fait qu'on publiait dans le bulletin des plaintes qui venaient de... Mais il faut savoir, déjà en 1870, on avait demandé au CICR de dénoncer des violations. Et le CICR a toujours dit, on ne fait pas. Peut-être si c'est quelque chose d'une grande notoriété et tout le monde sait, peut-être qu'on va intervenir, mais sinon, on ne va pas dénoncer. Le CICR n'a jamais publié des plaintes de son propre gré. Ils ont publié ce qui venait des sociétés nationales. Donc les sociétés nationales, on voyait, et puis dans le bulletin, il y avait une petite section qui disait plainte, et puis ils publiaient les plaintes qui étaient là. Mais des fois, c'était un télégramme, des fois, c'était 10 pages. Il y avait des fois où ils font référence à des photos qui auraient dû être accompagner la plainte. Moi, je n'ai jamais trouvé des photos dans les archives, donc je ne sais pas s'il y a eu ou quoi. Mais ils ont fait ça, et puis le but, c'était, d'après ce que j'ai compris, c'était d'initier un dialogue entre les sociétés nationales et les gouvernements par rapport à l'interprétation de certaines dispositions et de voir qu'est-ce qui se passe dans ce conflit. Ils voulaient aussi que la société nationale accusée, pas la société, mais l'État de société nationale accusée, fait une investigation et puis qui publiait ensuite la réponse. Et la réponse venait souvent de hauts commandants des armées et qui était publiée. Souvent, dans ces plaintes, ce qu'on trouve, c'est un « he said, she said »,« you said we did this, but actually we did that ». C'est sur les faits. Ce n'est pas une interprétation juridique des obligations, mais c'est vraiment très factuel. Oui, alors ils ont dit qu'on a tiré sur cet hôpital-là, mais en fait, vous voyez par ces photos que l'hôpital se trouvait derrière une colline, puis il n'y avait pas de drapeau, puis on ne savait pas. Voilà. Mais ils n'ont jamais dit que la convention ne s'applique pas. Et ils ont... Il n'y avait pas toujours une enquête. Et le CICR était souvent très déçu de qualité ou de niveau ou juste de l'existence d'une enquête par rapport à ces plaintes. Ils ont publié à peu près 80 plaintes. 30 étaient sur des attaques contre des hôpitaux ou des stations médicales ou des choses comme ça. Une vingtaine se plaignaient de mauvais traitements de blessés et de malades, y compris de tirer sur des blessés et des malades. Donc c'est peu, on est d'accord, 80 sur toute l'étendue de la guerre et tout ce qui s'est passé. C'est sûrement pas toutes les violations qui ont été, où on a fait une plainte, mais ça représentait en tout cas une toute petite partie du travail du CICR par rapport au dialogue de mise en œuvre. Ça, c'était le côté public, le côté de travailler directement avec les États, avec un dialogue bilatéral par rapport aux mises en œuvre. Ça, c'était aussi toujours le cas pendant le conflit. Et ils ont continué à œuvrer sur les deux voies en même temps. Et puis finalement, juste sur la publication des interprétations du droit que le CICR avait fait, donc le sujet qui était lié à la convention en 1906 qui a fait couler beaucoup d'encre de juristes, c'était justement l'obligation de retourner le personnel médical qui était tombé en main ennemie. Et donc il y avait un article 9 qui disait que le personnel médical, donc affecté à l'enlèvement, transport, traitement de blessés des malades, seront respectés et protégés en toutes circonstances. S'ils tombent entre les mains de l'ennemi, ils ne seront pas traités comme prisonniers de guerre. Et puis ensuite, il y avait une autre disposition, 12, qui disait « Les personnes désignées dans les articles précédents continueront, après qu'elles seront tombées au pouvoir de l'ennemi, à remplir leurs fonctions sous sa direction. Lorsque leur concours ne sera plus indispensable, elles seront renvoyées à leur armée ou à leur pays, dans les délais et suivant l'itinéraire compatible avec les nécessités militaires et elles peuvent amener aussi leurs armes et leurs chevaux avec eux quand ils repartent, parce qu'ils avaient leurs chevaux. Donc, comme avec toutes ou presque toutes les dispositions juridiques, il y a un certain marge dans la façon dont on peut l'interpréter de bonne foi. Et par exemple, quelles circonstances nous amèneraient à la conclusion que leur concours n'est plus indispensable ? Est-ce que ça veut dire que les personnes, qu'est-ce que ça veut dire que ces personnes continueront de remplir leurs fonctions ? Est-ce que cela comprend être transportées avec les prisonniers de guerre loin du front pour soigner des nouvelles maladies ? Est-ce que ça veut dire qu'ils vont aller dans les camps ? Si oui, pour combien de temps ? Et est-ce qu'ils continuent de remplir, est-ce qu'ils continuent de remplir leurs fonctions s'ils sont retenus pour soigner des prisonniers de guerre pour tout ce qui peut arriver de nouveau, voire alléger le travail du personnel médical de la puissance détentrice. Et ces questions ne sont pas simples et elles étaient très controversées pendant le conflit. Donc le CICR avait une lecture assez stricte de tout ça, comme vous pouvez imaginer, que c'est uniquement pour directement après les blessures et tout le reste, et puis on ne peut pas les transporter avec les prisonniers de guerre très loin, parce qu'il faut qu'ils soient renvoyés directement sur le front pour faire leur travail sur le front, parce que c'est pour ça qu'on a créé cette convention. Voilà. Et le Royaume-Uni était relativement d'accord, les Allemands avaient une autre interprétation qui était beaucoup plus large. Et il faut se rappeler que plus de prisonniers de guerre mouraient de maladies que de blessures suite à au combat. C'était 1915, comme vous savez, il y avait typhus, il y avait des énormes épidémies qui ravageaient les camps. Donc ça, c'est un double tranchant. D'un côté, c'est clair qu'on a besoin de personnel médical pour soigner ces prisonniers de guerre. De l'autre côté, si la puissance détentrice peut s'appuyer sur le personnel médical de l'autre côté, qui ont été capturés, ça veut dire qu'il épargne son personnel médical qui devrait aider, et en même temps, il épargne aussi de la maladie. Parce qu'il y avait aussi beaucoup de personnel médical qui est mort pendant tout ça. Donc c'était à double tranchant. Non, mais il peut quand même avoir des raisons humanitaires pour appuyer les deux interprétations. Donc pourquoi est-ce que le CICR s'est acharné sur son interprétation ? Je pense qu'il y a plusieurs raisons. La première, c'est que selon les informations qu'ils ont publiées à la fin de la guerre, c'est qu'il y avait beaucoup qui étaient retenus et puis qui ne pouvaient pas exercer leurs fonctions, qui ne donnaient pas de soins médicaux. Donc, ce qui veut dire que leur capacité d'aider était complètement nulle et perdue pour tout le monde. Deuxièmement, je pense que la puissance, comme il incombait à la puissance détentrice de fournir les soins médicaux, s'il arrivait à détenir plus longtemps les autres, il gagnait un avantage. Sur ça qui était peut-être pas juste et voilà. Mais là où les CICR avaient cédé un peu dans son interprétation, c'était à l'Est, donc les prisonniers de guerre russes, hongrois et tout le reste, parce qu'il y a un très très grand nombre, et aussi ils ont aussi besoin de personnel médical qui peut parler leur langue, et là on n'a pas ça. Donc ils n'ont pas eu une interprétation qui était dogmatique, il faut que ça s'applique comme ça partout. C'était, il y avait du pragmatisme là-dedans, mais c'était très, ils étaient très préoccupés par le fait que ce personnel médical n'a pas été renvoyé. Et sa préoccupation avec cette obligation peut paraître un peu étonnante, dans le sens où on peut penser que le fait de ne pas retourner le personnel médical n'était pas une violation si grave si on pense à tout ce qui se passait dans le conflit. Mais si on considère que la présence du personnel médical sur le champ de bataille pour soigner les blessés était la clé de voûte du système de protection des blessés et de réduire autant que possible les conséquences du conflit, on comprend beaucoup mieux sa démarche dans ce sens. Donc en conclusion, le CICR a œuvré tout le long du conflit pour arriver à une interprétation plus ou moins consensuelle de la convention de 1906 et de ce que les dispositions demandaient des États. Et à la fin de la guerre, Paul Legout a avéré qu'à certains moments, les CICR craignaient que la convention n'était qu'un « token philanthropic agreement ». Je suis désolée, j'ai perdu la traduction en français. Mais sans plus de pouvoir. Ils avaient vraiment peur qu'en fait ce droit, ça allait plus tenir. Et sa grande frustration était par rapport au non-retour du personnel médical. Et on voit ça aussi dans la façon dont le CICR a réagi face à la réaction des États-Unis, qu'en fait ça ne s'appliquait pas du tout. Donc le CICR comprenait que rien n'était acquis. Globalement, on voit que les parties au conflit ont pris au sérieux leurs obligations de respecter et soigner les blessés et les malades. Ils avaient vraiment mis en place des systèmes pour le faire. Et ouais, globalement, je dirais qu'il y a relativement peu de violations, comme on a dit, mais il y en avait. Mais le travail du CICR, qui était souvent dans l'ombre pour faire respecter le droit, est peut-être moins épatante de tout ce qu'il a fait pour mettre sur pied l'agence pour prison de guerre, mais c'était un travail redoutable, entrepris avec acharnement, et qui démontre, je pense, l'importance du droit dans la fibre humanitaire du CICR. Je vous remercie.